Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Philippe Solers qui nous a fait l'amitié de venir nous voir et on en est très heureux évidemment, très fiers aussi sur cette radio. Philippe Solers qui a sorti il y a quelques semaines un roman, essai. D'abord, c'est vrai, qu'est-ce que c'est Philippe Solers, cette éclaircie,
C'est un roman qui comporte quelque chose qui n'est pas interdit, quoique c'est en général mal jugé, des pensées, oui, c'est ça, des situations devant la peinture. C'est une critique sociale très, très sévère de la société dans laquelle nous sommes. Bon, tout s'achète, se vend et s'effondre. Bon, les marchés financiers, voilà. Donc, il est important par exemple, de considérer justement le problème de l'argent. La situation où le narrateur rencontre cette Lucie, qui est riche, collectionneuse, bon, c'est l'arrivée à Paris du manuscrit de Casanova. Oui. J'étais là.
Pour vous, c'est important, aussi, bien sûr.
Écoutez, c'est un manuscrit qui aurait dû revenir en France. Il est écrit en français. J'ai observé la scène. C'était au ministère de la Culture. Il y avait, voilà, le manuscrit était là. Le descendant allemand. Le manuscrit était en Allemagne, était là pour apporter le manuscrit qui a été acheté 7,5 millions d'euros par un généreux mécène qui a voulu rester anonyme. Tiens, vous aviez le manuscrit sous vitrine et une petite nuée de photographes et de caméramen qui photographiaient. D'un côté, vous aviez l'image, donc les photos du manuscrit. Et de l'autre, vous aviez le chèque. Et j'étais obligé de faire remarquer au photographe que il était écrit en français. Les mémoires de Casanova, Histoire de ma vie, c'est écrit en français. 7,5 millions. Donc, on peut supposer, par exemple, que Lucie a peut-être contribué à l'achat de ce manuscrit, qui est à la Bibliothèque nationale de France maintenant, il va y avoir une nouvelle édition. À la fin du livre, du roman, elle l'a acheté.
Elle a acheté du propre manuscrit.
Elle a acheté
les
manuscrits de
vos de manuscrits, moi, pour les.
Oui, mes manuscrits, et ils partent à Shanghai. C'est amusant parce que un manuscrit de Casanova de Venise arrive à Paris et les miens s'en vont en Chine. Pourquoi? Parce que le pari que je fais, c'est que, en effet, la Chine est déjà pratiquement la première puissance économique mondiale, je vous apprends rien. Mais ce qui m'intéresse, c'est que, issu de Bordeaux et ayant été en quelque sorte engendré par les vignes, c'est quand même une exportation ahurissante. Vous savez quel est le cognac préféré des Chinois? Vous savez comment il s'appelle? C'est le Louis XIII qui est vendu très très cher par les. Vous savez qu'il y a beaucoup de millionnaires chinois, pratiquement autant qu'aux États-Unis d'Amérique maintenant. Hein. Et donc ils se poivrent, si je peux dire, au Louis XIII. Est-ce qu'un Chinois un jour va se demander qui était Louis XIII? Ça serait intéressant, Louis XIII. Alors il va lire, je sais pas, Alexandre Dumas, les Mousquetaires, je sais pas. Ils vont, voilà. Donc c'est intéressant parce que il se produit dans la planétarisation ou la mondialisation des choses de ce genre, alors que tout est soi-disant aplati, des événements. Des petits événements énormes, comme celui que je viens de dire, c'est-à-dire que personne ne s'attendait à ce que la Chine devienne le premier importateur de vin de Bordeaux.
Mais pourquoi avez-vous une vision aussi noire au fond du monde qui nous entoure? Sans doute l'avez-vous eu déjà depuis longtemps, mais dans ce livre, c'est vrai que ça apparaît, et notamment vous avez des mots assez durs sur le monde de l'art contemporain. Vous vous moquez certains artistes qui ont été exposés à Versailles, Venise.
Parce que c'est l'arrogance de l'argent. Ça n'est plus. Vous savez ce que disait Warhol. On a acheté de l'art avec l'argent. Maintenant, on achète de l'argent avec de l'art. C'est tout à fait autre chose. Donc, c'est une méconnaissance, une ignorance. Et donc, c'est du mauvais goût, si vous préférez.
C'est un marché aussi.
C'est un marché.
C'est ça que vous récusez, oui, c'est ça. Mais comment peut-il y avoir des valeurs objectives de toute façon? Il faut bien que ce soit le fruit de l'offre et de la demande, parce que au fond, l'art contemporain, on n'a pas de recul, on n'a pas de.
Oui. Écoutez, il y a eu beaucoup de critiques faites par Manet ne vendait aucun tableau. Tout Paris défilait devant l'Olympia pour se moquer de ces tableaux. Il était triste. Il ne voulait plus lire les journaux qu'il les ratait constamment. Bon. Ensuite, ça vaut beaucoup d'argent. Picasso, lui, s'est battu. Mais enfin, à quel prix aussi, c'est une vie extraordinairement intéressante. Là, ça devient vraiment toute une vie, le problème de toute une vie. Les artistes contemporains, c'est un second marché, c'est un marché qui circule, et le dernier qui vend est floué, bien entendu. C'est donc ça n'est pas de l'argent au sens classique de l'économie politique, c'est du fric qui passe et qui s'évacue. Vous comprenez?
Rien ne laissera...
C'est pas fait pour durer. C'est pour ça que...
Comment on peut dire ça? Peut-être certains laisseront des traces
On peut pas le dire. Mais moi, je le dis.
Avec votre goût.
Parce que je ne suis pas un agent des marchés financiers.
Enfin, ça pourrait vous plaire, tout simplement. Ça pourrait vous plaire, vous procurer un choc. Je sais pas.
Mais il y a tellement de chocs à avoir. Oui, mais bien sûr, c'est comme en musique, en sculpture ou en littérature. Si vous avez 600 romans qui paraissent chaque année en France, vous savez comme moi qu'il y en aura à peine 3 ou 4, dont le mien d'ailleurs, qui resteront un peu. C'est pas 600. Donc cette inflation est intéressante à étudier. Vous avez un marché d'art contemporain considérable, frénétique. Bon, vous allez à Venise. Vous avez tout. Si vous êtes, si vous vous décalez des touristes, et il suffit de faire 50 ou 100 mètres et on est très tranquille. Et vous avez là le musée de la douane Berme, investi par François Pinault. Vous le détruiriez complètement. Que les tableaux des églises vous resteraient tout à fait fabuleux. Donc pourquoi voulez-vous perdre votre temps à regarder?
Vous êtes très réactionnaire.
Mais c'est pas réactionnaire, c'est le contraire qui est réactionnaire. Les réactionnaires du temps de Manet, c'était les bourgeois et les petits bourgeois qui se rassemblaient pour hurler contre ces tableaux et qui aimaient Cabanel, c'est-à-dire les tableaux que vous avez de nymphes emperlousées sur des rochers, que vous avez sur les restaurants, les restaurants des Champs-Élysées, vous les avez vus sûrement. Vous avez des nymphes sur des rochers. C'est ça qui était réactionnaire. Manet est un révolutionnaire, évidemment. Et Picasso aussi. Ce sont des révolutionnaires qui finalement gagnent. Et le conformisme adapté au marché perdra.
Et pourquoi alors Manet, Picasso, bien sûr, on imagine, enfin ce sont des monstres de la peinture, ou en tout cas sans doute des peintres incontestables. Et vous dites à un moment, mais Manet était un virtuose de l'inceste. C'est aussi ce qui vous a intéressé, enfin c'est ce qui vous a permis de rapprocher ça de votre dame, oh, de l'un des personnages.
C'est quand même toujours cette Berthe Morisot au Bouquet Vert. Il lui a, pour qu'elle reste un peu dans la famille, en quelque sorte, il lui a fait épouser un de ses frères. Donc ça a été sa belle sœur. Vous le mettez pas, mais c'est un tableau extraordinairement troublant qui prouve que il savait quelque chose de ce côté-là. Quant à Picasso, je crois que personne n'a jamais parlé, jamais, de ses deux sœurs. Une, l'aînée, qui s'appelle Lola, qui était une remarquable Andalouse.
On a parlé de ses femmes, évidemment.
Il l'a photographiée à Barcelone. Vous savez que Demoiselle d'Avignon est tournée, si je peux dire, vous voyez, j'emploie un mot de cinéma. C'est passé dans un lieu de bordel à Barcelone, hein. C'est Demoiselle d'Avignon, de la rue d'Avignon. Voilà. Donc, Picasso est diplômé des bordels de Barcelone. Et je vous assure, plus haut niveau. Comme Manet était diplômé de la vie à Paris, du café Tortoni, etc., des modèles qui draguaient dans la rue, tout en rentrant chez lui très tranquillement avec sa femme, Suzanne Manet.
Qui jouait
du piano. Voilà, des vies extravagantes. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça le roman. Le roman, c'est la vie de ce genre de gens. Et donc, j'essaye de voir comment ils ont pu faire. Donc, le grand amour de Picasso. Ces gens ont 30 ans, hein, là. Trouvez-moi des gens de 30 ans aujourd'hui qui savent dessiner et qui savent faire Le Déjeuner sur l'herbe de Manet. Il faut se poser la question de savoir pourquoi.
Ils sont capables de faire autre chose, peut-être.
Pourquoi pas aussi. Oui, d'accord, autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça.
C'est ça, au 19e siècle. C'est ça reste aujourd'hui.
Oui, mais ça pose une question sur le corps, quand même. Savoir où en sont les corps, s'ils sont... Voilà, c'est le corps français, notamment, mais le corps espagnol aussi, voilà. Donc, il y a cette puissance de l'amour chez l'un et chez l'autre, du désir, hein. Par exemple, le grand amour de Picasso, qui s'appelait Eva,
ouais.
et qui est morte très tôt.
On connaît ils beaucoup ont moins que ces deux. Femmes, que les femmes qu'il a épousées.
C'est autre chose. Ouais. Après, il rentre dans des manèges, des histoires de mariage très, très, extrêmement négatives. Mais Eva Güell, qui est morte en 1904, c'est la période la plus audacieuse de Picasso. Transformer le cubisme synthétique, c'est-à-dire transformer une femme en violon, ça, il faut savoir le faire. Regardez ce tableau, 1912. Mais, voilà. Donc, ce sont des histoires d'amour. Indubitablement. C'est-à-dire, de la part de ces hommes-là, des histoires de femmes. De certaines femmes qui deviennent quelque chose comme des déesses, voilà, extraordinaires. Donc, c'est le désir partagé et la jouissance par l'art, du corps dans l'art. Et, est-ce que c'est vraiment ça qui nous est proposé aujourd'hui? Pas du tout. La société fait tout contre. Elle a toujours fait contre. Mais là, elle le fait avec des moyens absolument considérables pour exproprier les corps et empêcher leur rencontre. Parce que la société n'aime pas qu'on soit réfractaire et qu'on ait des choses à ne pas dire, à ne pas avouer et à ne pas montrer. Voilà, c'est ça le sujet du livre. L'éclaircie en dehors de la maîtrise, à la mainmise sociale sur les vies.
Avec aussi des petits coups de patte à certaines affaires, Bettencourt, Bagnier, enfin on reconnaît...
C'est énorme.
Ah, voilà.
Tout ce qui se passe est énorme, l'affaire Bettencourt est énorme. Comment ça suppose du génie, José
Bagnier. Mais ça suscite de la sympathie chez vous tout de même
Une certaine sympathie. Oui.
C'est d'ironie, mais...
Écoutez, arriver à soutirer un milliard d'euros, puis après les affaires...
Autant de personnages que vous connaissez vous-même.
Oui, je connais un peu tout ça. C'est pas, il n'y a pas seulement ça. C'est un milliard d'euros, j'ai vu des gens dire, c'est pas possible, il n'est pas arrivé à se faire donner un milliard d'euros, c'est un million. Un milliard d'euros, Claire, vous réfléchissez vite à ce que ça représente éventuellement. Voilà. Donc d'un côté, vous avez ça, alors que de l'autre, vous avez, je ne sais pas quoi, la misère qui est en cours, parce que c'est là, il y a une grande misère dans ce pays, selon que vous acceptez ou pas de l'avoir, une énorme misère. Il suffit de jeter les yeux, et puis la TVA sociale et tout ce que vous voulez. Bon, tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas vu et qui n'est pas vu vraiment, sauf dans l'idéologie, la politique, etc. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus tragique, qui est cette disparité, ces mondes qui n'ont plus rien à se dire. On est dans des sphères qui où vraiment toute une série de gens peuvent ignorer qu'on ne mange pas à côté de chez eux. Prenez la Grèce, par exemple, ces jours-ci, et espérons que nous n'arriverons pas à être comme la Grèce. C'est pas sûr. Tout le monde est inquiet, vous savez bien. Donc, avec votre triple A et tout ça...
Notre triple A, partage.
Voilà. J'ai entendu, par exemple, Claude Guéant dire... Le département le plus endetté de France, c'est celui de Monsieur Hollande, de la Corrèze. Eh bien, la France, la Corrèze, c'est la Grèce de la France. À ces mots, je me suis presque jeté par la fenêtre.
Voilà. On vous sent bien.
Enfin, donc, vous voyez. Non, mais regardez, il n'y a pas que la Grèce, c'est partout. Regardez la Syrie, regardez les massacres, regardez l'inertie général devant des choses ahurissantes. Dire bon, vous avez Jonathan Dittel qui vous décrit ça dans Le Monde, il est là, on tue les malades, enfin c'est extraordinaire. On vit dans une époque comme ça, donc le système nerveux doit être solide, et vous l'avez, j'en suis sûr.
En tout cas, on essaye, on observe tout ça comme vous, évidemment, avec moins d'emportement, mais enfin, ça, c'est normal. Et on n'a pas de votre talent, évidemment, Philippe Solers. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Et évidemment, il faut lire l'éclaircie, il faut aussi aller voir ces tableaux et revoir, sans doute, parce que c'est tout à fait passionnant.
Voir enfin,
d'ailleurs.
Parce que moi, à l'exposition Manet, moi, j'ai vu les gens, autrefois, se venaient rire. Enfin, que c'était vraiment un monstre, l'Olympia. Là, j'ai vu autre chose. J'ai vu les gens défiler sans rien voir. Je les voyais ne pas voir. C'est nouveau.